porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans À Notre Regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il y a des nuits où le monde semble légèrement décalé, comme si la réalité, sans prévenir, glissait d'un demi-pas sur le côté. Rien n'a changé, et pourtant, tout paraît différent. Un chiffre s'allume sur un écran, un regard se pose machinalement sur une horloge. 11h11, 22h22, des nombres qui se répondent, se répète, s'impose, simplement le hasard pour certains, clin d'œil du destin, message codé ou appel silencieux pour les autres. Et si cet instant n'était pas anodin? Si ces secondes suspendues étaient des fissures dans le temps, des rappels discrets que le réel n'est peut-être pas aussi linéaire qu'il le prétend. Bienvenue dans un autre regard sur Radio G Angers, une émission qui n'affirme rien, mais qui observe, questionne et ose regarder là où l'on détourne habituellement les yeux. Ce soir, nous parlerons de signes, de ces synchronicités troublantes qui surgissent sans prévenir et laissent derrière elles un étrange sentiment de familiarité, comme si quelque chose ou quelqu'un avait tenté d'entrer en contact. Alors nous commencerons par les heures miroirs, ces séquences numériques obsédantes qui apparaissent au fil des jours et des nuits. Alors pourquoi reviennent-elles toujours au même moment de nos vies? Pourquoi semble-t-elle surgir lorsque l'on doute, lorsque l'on cherche, lorsque l'on est dans la croisée des chemins? Sont-elles de simples jeux statistiques ou les vestiges d'un langage que nous avons oublié? Puis nous remonterons le temps à une époque où la frontière entre science, foi et magie n'existait pas encore vraiment. Nous entrerons dans l'univers de John Dee, mathématicien brillant, astronome, cartographe, conseiller de la reine Elisabeth Ier, mais aussi un homme de l'ombre obsédé par la connaissance absolue. Un homme qui ne se contentait pas d'observer les étoiles, mais qui prétendait converser avec des entités venues d'ailleurs par le biais d'un langage angélique interdit. John Dee croyait que le savoir véritable ne se trouvait pas uniquement dans les livres, mais également dans l'invisible. Alors là où la raison vacille, là où l'esprit humain ose poser des questions auxquelles il n'est peut-être pas prêt à entendre les réponses. Enfin, nous suivrons un chemin plus ancien encore, un chemin liquide, celui des rivières, des lacs et des étangs. Depuis toujours, l'eau est un seuil, un miroir, un passage. Elle conserve les secrets, les drames, les prières murmurées et les corps disparus. Des lieux où le temps semble se figer, où l'on parle d'apparitions, de voix, de silhouettes aperçues à la surface, puis englouties à jamais. Mais pourquoi tant de légendes, de phénomènes inexpliqués, de récits de hantises gravitent-ils autour de l'eau? Que garde-t-elle au fond de ses profondeurs? Et surtout, que nous renvoie-t-elle lorsque nous osons nous y regarder trop longtemps? Ce soir, il ne s'agira pas de croire, mais d'écouter, de ressentir, et peut-être de reconnaître ces signes discrets que l'on croise tous un jour ou l'autre. Alors installez-vous, baissez les lumières, ouvrez l'œil et l'esprit. Vous écoutez Un Autre Regard sur Radio G Angers, sur votre radio en 101.5 FM, en DAB+, et sur notre site internet www.radio-g.fr. Et bien sûr, en podcast sur votre plateforme habituelle. Alors, il existe des phénomènes qui n'ont rien d'extraordinaire en apparence. Il n'y a pas de lumière étrange, pas de manifestation spectaculaire, pas de rupture visible avec le réel. Des phénomènes discrets, presque invisibles, qui s'insinuent dans le quotidien sans jamais le perturber frontalement. Alors, les heures miroirs font partie de cela. Alors, elles ne surgissent pas dans un contexte particulier, elles apparaissent au détour d'un geste banal lorsque l'on consulte l'heure sans y penser, par habitude, par automatisme. Et pourtant, lorsque les chiffres s'alignent et se reflètent, l'instant semble se détacher du reste de la journée. 11h11, 22h22, 1h01, 8h08, etc. Rien ne se passe objectivement, mais pour beaucoup, quelque chose se joue intérieurement. Un léger arrêt, une sensation fugace que l'instant a pris une épaisseur particulière, comme si le temps venait de se signaler à notre attention. Alors ce qui intrigue avec les heures miroirs, ce n'est pas leur existence, d'un point de vue strictement rationnel, elles sont inévitables. Nous regardons l'heure plusieurs dizaines de fois par jour. Les probabilités font le reste, bien sûr. Mais si cet instant n'était pas une simple coïncidence numérique, pourquoi marquerait-elle autant les esprits? Pourquoi tant de personnes, sans se connaître, décrivent-elles les mêmes sensations? Pourquoi ces heures sont-elles souvent remarquées dans des périodes de doute, de fatigue, de remise en question ou de transition de vie? Pourquoi enfin ressent-on parfois le besoin de leur attribuer un sens, même lorsque l'on se revendique rationnel? Alors, les heures miroirs posent une question simple mais profonde. À quel moment une coïncidence cesse-t-elle d'être anodine pour devenir signifiante? Alors ce soir, il ne s'agira pas de prouver que les heures miroirs sont des messages, ni de démontrer qu'elles ne sont que des illusions de l'esprit. Il s'agira de comprendre pourquoi elles nous touchent, pourquoi elles s'inscrivent dans notre mémoire, pourquoi elles apparaissent comme des repères silencieux dans le flux du temps. On va déjà revenir à l'essentiel. Sont réellement les heures miroirs? Est-ce que la psychologie nous apprend sur notre rapport aux chiffres, aux répétitions et aux coïncidences? Puis on verra comment ces instants ont progressivement glissé vers une interprétation plutôt symbolique et spirituelle, portée par l'histoire des nombres et la notion de synchronicité. Enfin, on va s'interroger sur ce que ces heures disent de notre rapport au temps, à l'attente, à la recherche de sens dans un monde qui est saturé de signes. Car peut-être que les heures miroirs ne cherchent pas à nous transmettre un message venu d'ailleurs, peut-être cherchent-elles simplement à nous rappeler quelque chose d'essentiel, que le temps n'est pas seulement ce qui passe, mais aussi ce que l'on regarde. Alors les heures miroirs, tout d'abord, elles surgissent dans le quotidien au détour d'un geste banal. Et c'est la répétition des chiffres qui va attirer notre regard. À ce moment précis, le temps semble se figer. L'instant acquiert une densité inattendue, une signification silencieuse que le reste de la journée ne porte pas. Alors, du point de vue psychologique, ce mécanisme repose sur une capacité ancienne et profonde de l'esprit humain. Le cerveau est programmé pour repérer les motifs, les symétries, les répétitions. Alors, cette aptitude héritée des milliers d'années d'évolution nous a permis de survivre, d'anticiper les dangers, de comprendre le monde en détectant l'ordre dans le chaos apparent. Alors, dans le cas des heures miroirs, cette détection se manifeste comme un signal subtil, une mise en lumière intérieure. Les heures ordinaires passent inaperçues, mais celles qui se répètent captent notre attention. Elles sont enregistrées par la mémoire, non pas en raison de leur utilité pratique, mais à cause de leur singularité formelle. Alors, ce qui distingue ces heures miroirs, cependant, c'est pas seulement la répétition, mais le moment où elles apparaissent. Elles sont souvent perçues dans des périodes de transition et d'incertitude, tard le soir, très tôt le matin, au moment d'un moment d'attente ou de réflexion. Elles se glissent dans l'attention comme un souffle léger. Elles coïncident avec des états de fragilité émotionnelle, de doute, de remise en question ou parfois d'éveil particulier. Et c'est précisément cette rencontre entre un état intérieur spécifique et un événement extérieur qui leur confère ce petit caractère fascinant. Alors dans cette perspective, elles cessent d'être de simples coïncidences pour devenir ce que Jung a nommé des synchronicités. Donc la synchronicité, c'est pas la causalité, ce n'est pas la logique rationnelle qui relie deux événements. C'est une correspondance significative, une résonance entre le monde extérieur et le monde intérieur, entre l'instant perçu et le cheminement intime d'une personne. Alors une heure miroir, c'est pas un message objectif, mais elle agit comme un écho de ce qui se joue en nous. Elle attire notre attention sur ce que nous ressentons, sur ce que nous pensons, sur ce que nous cherchons sans toujours le formuler. Elles sont également fascinantes parce qu'elles s'inscrivent dans un langage symbolique et très ancien, celui des nombres. Les nombres ne sont jamais que de simples outils mathématiques. Depuis l'Antiquité, ils portent des significations profondes, des vibrations, des qualités archétypales. On rappelle que le 1 symbolise le commencement, la singularité, l'élan initial. Le 2, c'est plutôt la dualité, le dialogue, la relation. Le 3 ouvre le passage, la médiation entre le visible et l'invisible. Et lorsque ces nombres se répètent, lorsqu'ils se reflètent, leur force symbolique s'amplifie. Ils deviennent des seuils, des points d'attention, des ponts. Donc vous voyez, on peut continuer ainsi sur tous les nombres, etc. Mais ce qui frappe le plus dans l'expérience des heures miroirs, c'est la dimension intime et subjective. Deux personnes peuvent observer la même heure et ne pas ressentir du tout la même chose. La valeur de l'heure miroir n'existe que dans la rencontre entre le chiffre et la conscience qui le reçoit. Elle ne prédit pas, elle ne conseille pas, elle ne menace pas non plus. Elle reflète simplement un état intérieur et propose un arrêt, un moment de présence, un moment de conscience. Le regard se fixe l'instant Pour quelques secondes, le flux du temps ordinaire se suspend. Et c'est dans cette suspension que la magie se glisse, si on peut employer ce terme. Non pas au sens surnaturel, mais au sens de l'éveil de l'attention et de la conscience. Alors, nombreux sont ceux qui, après avoir remarqué une heure miroir, se sentent interpellés, poussés à réfléchir ou simplement à observer leur journée avec plus d'acuité. Alors, ces instants deviennent des repères silencieux, des balises dans le temps. Et à mesure que l'on prête attention à ces répétitions, elles semblent apparaître plus fréquemment, comme si l'esprit était en état de réceptivité. Alors, cette perception renforcée ne relève pas du hasard, mais de la relation dynamique entre attention et signaux discrets. Et au-delà de la psychologie et de la symbolique, il y a quelque chose de profondément humain dans la fascination pour les heures miroirs. Elles nous rappellent aussi notre rapport au temps, à l'instant présent et à notre conscience. Elles nous invitent à ralentir, à observer, à écouter, à sentir. Elles transforment une minute banale en un fragment d'éternité perceptible, en un moment où l'on se reconnaît, où l'on se mesure à soi-même, où l'on prend acte de notre propre passage dans le temps. Ainsi, les heures miroirs ne sont pas un phénomène à prouver, ni une simple hasard statistique, c'est un point de rencontre entre le monde extérieur et notre monde intérieur, entre la mécanique du temps et la profondeur de l'expérience humaine. Elles sont en ce sens un miroir que le temps nous tend, un arrêt fugitif dans l'afflux de la vie, une invitation à regarder, à percevoir et à être attentif à soi, à quelque chose qui nous dépasse sans jamais se révéler entièrement. Alors, au-delà de cette perception de la psychologie, les heures miroirs possèdent depuis longtemps quand même une dimension qui est symbolique et ésotérique, qui fascine et qui intrigue. Dans des nombreuses traditions, des nombres ne sont jamais neutres. Ils portent des forces, des vibrations, des énergies, des secrets que la logique rationnelle seule ne peut révéler. Lorsqu'ils se répètent, ces nombres semblent nous adresser un message silencieux, une invitation à porter attention à ce qui se joue dans notre vie et autour de nous. Alors, certains interprètes considèrent que les heures miroirs sont des points de contact avec l'invisible, des instants où l'univers, ou ce que certains nomment la conscience cosmique, tente de communiquer avec nous. Elles ne dictent pas l'avenir, elles ne prescrivent pas d'action, mais elles attirent le regard, captent l'attention. Alors, le symbolisme des chiffres joue ici un rôle central. Le 1 répété incarne l'initiative, le commencement. Alors voilà que le double 1, le 11-11, c'est souvent perçu comme un rappel de nos potentialités, un moment où on pourrait choisir, recommencer ou s'aligner sur une intention plus profonde. Le 2, c'est la dualité, comme je disais, l'équilibre, la rencontre. Alors quand il se reflète, il rappelle la nécessité de regarder à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, de réconcilier ce que nous sommes avec ce que nous vivons. Le 3, le 4 et ainsi de suite, chaque nombre répété déploie sa propre vibration, son propre écho intérieur. Alors, des pratiques ésotériques plus avancées, issues de la numérologie, considèrent que ces instants sont des portes, des seuils, des fenêtres temporelles dans lesquelles notre conscience est plus perméable à des perceptions, on va dire, inhabituelles. Certains médiums, cartomanciens ou praticiens d'ésotérisme rapportent que noter les heures miroirs et méditer dessus ou simplement se laisser traverser par leur apparition, ouvre la perception à des intuitions profondes, à des synchronicités supplémentaires, voire à des révélations personnelles. Les chiffres se transforment alors en langage secret, un langage symbolique, et le temps devient un messager discret mais persistant. Il y a 11h11, qui est sans doute l'heure la plus célèbre, qui représente le moment où l'univers semble nous inviter à nous recentrer sur nous-mêmes. C'est souvent interprété comme un appel à l'alignement, à écouter nos désirs profonds et à se reconnecter avec notre potentiel. La personne qui la voit régulièrement porte souvent des prises de conscience soudaines, des intuitions fortes, un sentiment d'ouverture à de nouvelles possibilités, comme si ce moment était une fenêtre ouverte sur la vie qui pourrait s'offrir. Puis il y a 12h12, cette heure miroir évoque la complétude de la transformation. Le chiffre 12 porte en lui une symbolique de cycle de renouvellement. Ceux qui la remarquent sont souvent à un tournant, à un point ou à une étape qui se clôt pour en ouvrir une nouvelle. Elle est perçue comme un encouragement à laisser le passé et à accueillir ce qui vient, à franchir ce seuil avec confiance. 13h13, c'est considéré comme une invitation à dépasser les peurs, à se confronter à ses limites et à accepter que certaines épreuves soient faites en fait pour évoluer. Et si le chiffre 13 porte encore dans certaines cultures des connotations de malaise ou de superstition dans le langage des heures miroirs, il s'agit moins d'un présage négatif que d'un signal de force intérieure à mobiliser. Alors, les heures qui répètent le chiffre 2, comme 2h02, 22h22, sont liées à la rencontre, à la relation, à l'équilibre entre les forces opposées. Ça surgit lorsqu'une décision concernant autrui ou un partenaire est imminente. Elles invitent à l'écouter, à la patience, à la réfléchir avant d'agir. Les heures plus tardives, comme 7h07 par exemple, sont associées à la protection, à la guidance spirituelle, à la recherche de l'harmonie. 8h08 ou 9h09 sont perçues comme des rappels à l'action. Elles interviennent dans des moments où on pourrait hésiter à s'engager, à prendre des initiatives, à concrétiser des projets. Et enfin, il y a les 10h10 et 11h11 de la matinée. Donc la matinée, ça renvoie à la créativité, à l'inspiration et à la manifestation de soi dans le monde. Elles invitent à écouter nos pulsions intérieures et à nous donner forme dans la réalité. Alors ainsi, chaque heure miroir possède une vibration particulière. Il existe aussi des interprétations plus mystiques qui voient dans des heures miroirs un dialogue avec des forces ou des entités bienveillantes comme des anges, etc. Dans cette lecture, l'apparition répétée de certains nombres ne serait pas un hasard, mais un signe que l'on n'est pas seul dans l'univers, que quelque chose veille et nous accompagne, même silencieusement. Alors, ces lectures spirituelles ne sont pas dogmatiques, elles ne prétendent pas démontrer, mais proposent une expérience intérieure, un jeu d'attention et de résonance avec ce qui échappe au sens ordinaire. Les heures miroirs peuvent ainsi être comprises donc, finalement comme des miroirs de notre propre conscience. Elles vont refléter nos préoccupations, nos désirs, nos doutes et parfois nos espoirs. Et c'est certainement cette dimension intime qui explique pourquoi elles nous fascinent tant. Parce que chaque rencontre avec une heure miroir est personnelle, unique. La même heure peut avoir une signification totalement différente selon celui qui la voit. Ça devient un symbole vivant, malléable, qui se teinte des émotions, des questionnements et de la sensibilité de celui qui la perçoit. Elles sont en quelque sorte un pont entre le quotidien et le mystère. Une invitation à percevoir l'invisible dans l'ordinaire, à reconnaître les coïncidences qui portent un sens, à observer le temps non seulement comme quelque chose qui passe, mais comme quelque chose qui nous touche. Le temps, à travers ces instants reflétés, devient un miroir. Un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos émotions, à nos intuitions. Elle nous invite à nous arrêter, à percevoir l'ordinaire sous un jour nouveau, à écouter ce que nous avons oublié dans le tumulte de la vie quotidienne. Donc observer une heure miroir, c'est accepter un instant de présence. C'est accueillir ce moment de suspension, ce souffle subtil qui sans bruit modifie la perception de notre journée. C'est reconnaître que le monde extérieur et notre monde intérieur ne sont pas totalement séparés, que parfois les coïncidences sont des ponts, que parfois un simple alignement de chiffres peut faire écho à quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous touche intimement. Alors, il ne s'agit pas de superstition ni de prédiction, il ne s'agit pas de chercher des messages dans chaque chiffre ou de transformer chaque instant en signe. Il s'agit simplement de prendre conscience que même dans la banalité, dans la répétition mécanique d'une horloge ou d'un téléphone, peut surgir un fragment de signification, une étincelle de conscience, une note de sens dans le flux de la vie. Alors peut-être que les heures miroirs ne sont rien de tout cela. Alors la prochaine fois que vous tombez sur 11h11, 22h22, que vous levez les yeux sur un écran ou une horloge et que vous voyez les chiffres se répondre, ne vous contentez pas de les regarder passer, respirez et observez. Laissez-vous traverser par ce moment, laissez-le résonner en vous. Car elle nous rappelle bien que même dans le banal, le quotidien et la routine, le mystère en tout cas peut surgir et que de simples actes de regarder l'heure peut se transformer en un moment de révélation personnelle. Pour se remettre justement de nos émotions, je vous propose un petit titre des Rolling Stones.
But just wait and see. You come running back. I won't have to worry no more.
what you need. You come running back, said you would, baby.
You come running back,
I always said you would.
You come running back,
I won't have to worry no more.
Et voilà, vous venez de plonger avec nous dans le mystère fascinant des heures miroirs, des instants où le temps se reflète et nous invite à regarder un peu plus profondément en nous-mêmes. Vous écoutez Radio G sur 101.5 FM, en DAB+, et en streaming sur www.radio-g.fr, la fréquence qui accompagne votre curiosité, vos questionnements et vos moments de réflexion. Alors après avoir levé le voile sur le mystère discret des heures miroirs, nous allons maintenant nous aventurer dans le monde où l'histoire, la science et l'ésotérisme se mêlent intimement. Un monde où les étoiles, les nombres et l'invisible ne sont pas des abstractions, mais des chemins à explorer, des fenêtres sur ce qu'on ne voit pas toujours. Notre guide dans ce voyage est un homme qui a marqué la Renaissance par son génie, c'est aussi par l'audace de sa quête, John Dee. Alors, astronome, mathématicien, conseiller de la reine Elisabeth Ier et un mystique passionné, Dee est resté célèbre non seulement pour ses connaissances scientifiques, mais surtout pour sa tentative de percer les secrets de l'invisible, pour entrer en contact avec des forces supérieures, pour comprendre le langage caché du cosmos. Alors, à travers ses instruments, ses carnets, ses expériences et ses rituels, John Dee a tenté de franchir la frontière entre le monde tangible et le monde mystérieux, là où l'âme et la matière, le chiffre et l'esprit se rencontrent. Alors son histoire, c'est celle d'un homme qui a osé regarder au-delà du réel, qui a cherché à comprendre ce que beaucoup n'oseraient même pas imaginer. Alors ce soir, nous allons explorer sa vie, ses recherches, ses expériences avec les anges et les mystères qu'il a tenté de décrypter. Nous plongerons dans des carnets, des symboles et les histoires fascinantes qui entourent ses pratiques pour comprendre comment un savant du XVIe siècle a tenté de conjuguer science et magie, raison et intuition, savoir et mystère. Alors préparez-vous à franchir la porte du temps et de l'invisible, à suivre un chemin qui mêle entre l'histoire à l'ésotérisme et à découvrir John Dee, l'homme qui voulait parler aux anges et déchiffrer le langage secret du monde. Alors John Dee, il est né en 1527 à Londres. C'était un homme à la fois savant et visionnaire. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les mathématiques et l'astronomie, discipline qu'il étudiera avec une rigueur impressionnante. Mais Dee n'est-il pas seulement un scientifique, c'est aussi convaincu que le monde recelait des vérités invisibles, des lois cachées, que l'on ne pouvait voir qu'au travers de la contemplation, de l'intuition et de rituels soigneusement étudiés. Alors pour lui, il n'y avait pas de contradiction entre la science et l'ésotérisme, entre le calcul précis et les mystères de l'invisible. Tout était relié, les étoiles, les nombres, les anges, la destinée humaine. Alors au fil des années, Dee devient conseiller de la reine Elisabeth Ier, un rôle qui lui a permis d'exercer son influence tout en poursuivant ses recherches. Mais son nom devint aussi synonyme de magie et de mystère. Beaucoup de contemporains le considéraient comme un sorcier, un homme capable de parler avec l'invisible. Et certains le craignaient. Alors pour John Dee, il ne s'agissait pas de charlatanisme. Il cherchait à comprendre les lois cachées du monde, à établir un lien entre le ciel et la terre, entre la pensée humaine et les forces invisibles qui régissent l'univers. Alors c'était pas seulement un érudit finalement isolé dans son laboratoire, il occupait également un rôle d'importance stratégique et singulière auprès de la reine Elisabeth Ier. Alors une époque où la politique anglaise était marquée par les complots, les menaces extérieures, les tensions religieuses, la reine avait besoin de conseillers capables de combiner sagesse, savoir scientifique et une certaine vision de l'invisible. Alors Dee devint l'un de ses conseillers, à la fois astrologue et occultiste, il était capable de guider la souveraine à travers des choix politiques, diplomatique et militaire, avec un mélange d'érudition et de mysticisme. Il utilisait en fait ses connaissances en astronomie et en astrologie pour rédiger des horoscopes, calculer les positions des astres et anticiper les cycles favorables ou défavorables pour la prise de décision. Mais John Dee allait bien au-delà de ça, bien au-delà de simples calculs. Il interprétait des signes célestes comme des messages à décrypter, cherchant à comprendre non seulement le futur potentiel de la reine, mais aussi l'influence des forces invisibles sur la destinée du royaume. Certains documents et correspondances suggèrent qu'il recommandait des moments précis pour signer des traités, lancer des expéditions ou même accorder certaines audiences en fonction de ce qu'il percevait dans les astres et dans les visions ésotériques. Alors son rôle, c'était pas seulement consultatif, il était aussi protecteur, dit considérer que la reine et son royaume étaient sous l'influence des puissances invisibles et qu'il était de son devoir d'interpréter ses forces, de prévenir les dangers occultes et d'aider à contrer les intrigues surnaturelles ou les influences malveillantes, réelles ou supposées. Donc ces messages angéliques, en fait, étaient une sorte de boussole pour la politique et la diplomatie. Alors cette dimension occulte de son conseil donnait à Dee un pouvoir subtil mais réel. Il devenait une figure capable de lier le rationnel et le mystérieux, le calcul et la vision, la science et la magie. Mais cette position particulière comportait aussi des risques. Car certains nobles et courtisans voyaient en Dee un sorcier dangereux, capable d'influencer la reine par des moyens occultes. Les rumeurs allaient bon train, mais Dee s'en moquait. Pour lui, il ne s'agissait jamais de manipuler, mais de comprendre et d'anticiper les forces qui façonnaient le monde, qu'elles soient visibles ou invisibles. Donc il incarnait une figure singulière, celui d'un homme qui mêlait son rôle de savant, d'astrologue et de conseiller occulte. Et sa présence à la cour n'était pas un simple symbole de prestige, c'était l'expression d'une époque où le savoir, la politique et le mystère pouvaient coexister, et où la connaissance de l'invisible était considérée comme un atout stratégique. Donc dans ce rôle, Dee a laissé une empreinte unique, celle d'un conseiller capable de lire le monde avec les yeux de la science et ceux du mystère. Alors, au-delà de son rôle de conseiller occulte, John Dee était également connu pour ses prémonitions et ses prédictions, qui renforçaient en fait son aura de voyant. Alors, convaincu que le monde était régi par les fameuses forces, il était également convaincu que les événements présents et futurs étaient liés à des lois universelles. Donc il utilisait ses connaissances en astrologie, en mathématiques et avec ses contacts avec l'invisible pour anticiper des cycles politiques et des destins humains. Certaines de ses prédictions étaient directement liées à la cour d'Élisabeth Ier. Il affirmait pouvoir identifier des périodes propices pour prendre des décisions ou entreprendre des voyages diplomatiques. Par exemple, ses calculs astrologiques et ses observations des signes célestes servaient à déterminer les moments favorables pour la signature des traités. Et les lettres qu'il adressait à la reine contiennent parfois des avertissements sibyllins, des conseils rédigés en termes ésotériques, mais destinés à prévenir des dangers imminents ou à saisir des opportunités inattendues. Mais John Dee ne se limitait pas à la prévision politique. Ses carnets contiennent des éléments qui sont beaucoup plus troublants, des visions et des prédictions qui concernaient aussi l'avenir du royaume, à la destinée des puissants et même des événements universels. Alors certaines de ses communications avec ce certain Édouard Kelley, qui était transmise par un langage énochien, décrivaient des changements de pouvoir, des catastrophes ou des mouvements de population. Et il considérait ces messages comme authentiques, venus d'anges et d'entités supérieures. On raconte que John Dee avait prédit des événements majeurs pour l'Angleterre, parfois avec une précision étonnante, mais souvent sous la forme d'allusions mystérieuses, de symboles ou de codes qu'il fallait interpréter avec soin. Alors ses prémonitions suscitaient autant d'émerveillement que le doute. Certains voyaient en lui un prophète, d'autres un homme dont l'imagination et le symbolisme se mêlaient pour créer l'illusion d'un savoir surnaturel. On peut penser par exemple à Nostradamus. Quoi qu'il en soit, ses prédictions ont contribué à renforcer sa réputation et son influence, en particulier auprès de la reine, à une époque où le danger était quand même omniprésent. Il pouvait trouver dans ses visions une orientation, une confirmation de ses propres intuitions. Alors plus surprenant encore, Dee entendait parfois ses prédictions à des événements lointains ou universels. Alors ses carnets suggèrent qu'il cherchait à comprendre les cycles de l'histoire, les fluctuations du pouvoir et de la fortune, même des phénomènes naturels en les reliant à des lois cosmiques et à la volonté des forces supérieures. Comme tout à l'heure, pour lui, chaque signe, chaque chiffre, chaque alignement planétaire était porteur d'un message, et chaque message pouvait être lu comme un avertissement ou une orientation pour le futur. Donc il ne s'arrêtait pas à la voyance, puisqu'effectivement, il pratiquait aussi une forme de médiumnité. Donc la dimension la plus fascinante de sa quête, c'est sans doute ses expériences avec les anges. Alors pour ses communications, il s'associe à un médium qui est nommé Édouard Kelley, un homme en fait qui servait de canal pour les entités célestes que Dee cherchait à contacter. Donc à travers Édouard Kelley, Dee recevait des messages qui étaient cryptés, écrits dans un langage mystérieux qu'il nommait l'angélique ou le langage des Énochiens. Alors, ces messages abordaient des sujets qui étaient aussi variés que le cosmos, la nature de l'âme, le destin de l'humanité, mais aussi des fois des instructions pratiques et symboliques. Alors, certains textes semblaient si codés et si compliqués qu'ils défiaient toute interprétation directe, ce qui laissait quand même planer un doute constant sur la frontière entre la réalité et la perception intérieure. Alors, pour faciliter ces expériences, John Dee construisit et utilisa une série d'instruments uniques. Il a travaillé avec des sphères astronomiques, des compas, des calendriers complexes et des cercles magiques. Chaque objet avait sa fonction, chaque symbole son énergie. Les instruments servaient à concentrer l'attention, à amplifier la perception et à créer une genre d'interface, de machine, entre le monde matériel et le monde invisible. Et lorsqu'il plaçait Edward Cayley dans les cercles rituels, lorsqu'il observait les alignements planétaires ou lorsqu'il notait chaque signe dans ses carnets, John Dee n'était pas en train de jouer. Il accomplissait un genre d'acte de méditation scientifique, si on veut, où il mêlait une foi profonde à l'utilisation scientifique. Les fameux carnets, c'est plus de 1000 pages manuscrites qui nous sont parvenues. Elles sont remplies de dessins, de symboles, de calculs et de dialogues avec les anges. Alors certains de ces textes sont des traités scientifiques, d'autres des enregistrements de ces fameuses séances spirituelles. Alors lire un carnet de John Dee, c'est un peu pénétrer dans un esprit qui est obsédé par l'ordre et la connaissance, mais également ouvert à l'émerveillement et au possible. Alors, c'est comprendre que pour lui, chaque chiffre, chaque constellation, chaque figure géométrique était un signe. Alors c'est un homme qui était effectivement complexe, était confronté souvent à l'incompréhension et au scepticisme. Ses contemporains voyaient ses pratiques comme plutôt suspectes, hein, notamment l'Église. Et même Cayley lui-même, son médium et complice, était parfois considéré comme un manipulateur. Mais John Dee ne cherchait ni la célébrité ni le pouvoir, il cherchait en fait tout simplement à comprendre, à donner un sens à l'inconnu. Alors l'héritage de John Dee aujourd'hui, ça dépasse ses simples carnets et ses instruments. Aujourd'hui, il fascine totalement les historiens, les chercheurs, les occultistes et les curieux. Son nom évoque quand même la rigueur scientifique et les mystères les plus profonds. L'érudition et la magie. Dee nous rappelle que la frontière entre la science et l'ésotérisme, c'est parfois bien plus mince qu'on ne l'imagine. Et la quête de la connaissance peut prendre des chemins inattendus, étranges et profondément personnels. Et en pensant à John Dee, on ne peut s'empêcher de revenir à l'idée du miroir, du reflet, de la connexion avec l'invisible, un peu comme nous l'avions vu avec les heures miroirs. Il cherchait à voir ce que la plupart ne pouvaient percevoir, à comprendre ce que le monde ordinaire ne montrait pas. Et peut-être, il nous invite aussi à regarder autrement, à tendre l'oreille, à poser notre regard sur ce qui échappe à la vue, à percevoir le mystère là où il se cache dans notre quotidien. Donc ainsi, John Dee nous accompagne dans ce voyage entre savoir et mystère, entre observation et intuition. Il nous montre que le monde n'est jamais entièrement explicable et que les moments où l'on tente de percer l'invisible, qu'il s'agisse d'un chiffre répété sur une horloge ou d'un message venant de l'au-delà, sont des instants précieux où l'on touche à quelque chose de plus vaste, quelque chose qui nous dépasse. Voilà qui résonne profondément en nous. Alors ainsi se referme notre plongée dans l'univers fascinant de John Dee. Son existence nous montre qu'il n'y a pas toujours de frontière nette entre la science et la magie, entre les calculs rigoureux et l'intuition, entre l'observation et la prémonition. Alors chaque instrument qu'il émaniait, chaque carnet qu'il remplissait, chaque rituel qu'il accomplissait, était une tentative de tendre un pont vers l'inconnu, de percer les secrets que le monde ordinaire dissimule derrière les voiles du quotidien. John Dee nous rappelle que la curiosité et la quête du sens sont des forces puissantes, que le mystère n'est pas forcément effrayant, mais qu'il est en tout cas une invitation à regarder autrement, à écouter attentivement, à considérer que même dans le rationnel se cachent des bribes d'invisibles. Ces prémonitions, ces instruments, ces calculs et ces expériences angéliques sont autant de rappels que la connaissance peut être multiple et que l'émerveillement est souvent la clé pour entrevoir ce qui échappe à nos yeux. Alors en quittant cet univers, en laissant derrière nous les cercles magiques, les étoiles et les carnets mystérieux de John Dee, gardons à l'esprit cette leçon. Le monde recèle des mystères à chaque instant. Certains peuvent sembler lointains ou incompréhensibles, mais tous en tout cas nous invitent à tendre l'oreille, à poser notre regard et peut-être à percevoir l'invisible dans l'ordinaire. John Dee n'était pas seulement un homme du XVIe siècle, c'était une porte ouverte sur notre propre capacité à chercher, à questionner et à explorer. Et comme pour les heures miroirs, lorsque nous avons découvert plus tôt, il nous rappelle que le mystère, lorsqu'on l'accepte, transforme notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Alors, je vous propose un titre de Damon Albarn. Vous l'avez connu dans Blur, mais elle a composé un album dédié à John Dee. Donc, je vous propose le titre Apple Carts.
Pull the apple carts up from Silbury Hill, higher until heaven reveal. On the yellow dawn, respond to great authority, singing hallelujah, hallelujah. Love does reign in the kingdom of the broken heart. The blackbird sings and the morning laughs as war begins. Dance. Apple carts, burn them until a great fire begins to glow in the sky. There beneath the stones, recharge from great austerity, raining down from above. Distant is love, distant. In the kingdom of the broken heart, a blackbird sings, and the song it loves as war begins. Is real. Cast the body out into prevailing winds. Where it lands and grows, the blackbird will sing.
Vous êtes maintenant dans un autre regard sur Radio G, Angers. Alors que nous laissons derrière nous les carnets, les cercles et les visions de John Dee, nous franchissons une autre porte du mystère. Ici, il ne s'agira pas de chiffres, de prédictions, de messages angéliques, mais de lieux où l'invisible semble se manifester dans notre monde tangible. Alors sur Radio G 101.5 FM en DAB+, nous allons nous aventurer au fil de l'eau, le long des rivières silencieuses, au bord des lacs calmes, qui cachent parfois des secrets que l'on ne peut expliquer. Des histoires de disparition, des murmures, des silhouettes fugitives, des lieux hantés, où l'eau devient le miroir d'un autre monde, aussi proche que troublant. Préparez-vous à plonger dans ces mystères liquides et lacustres, à écouter les récits de témoins, à sentir l'atmosphère pesante et fascinante de ces endroits. Ici commence notre exploration des rivières et des lacs hantés. Alors, rivières silencieuses, lacs calmes, étangs oubliés, autant de lieux où le miroir de l'eau semble refléter non seulement le ciel, mais aussi des présences que l'on ne peut nommer. Alors, ces endroits ont toujours fasciné et inquiété l'homme. Dans le bruissement des roseaux, dans le clapotis des vagues ou la brume matinale qui s'élève à la surface, certains disent percevoir des murmures, des silhouettes, des traces d'êtres disparus ou des échos de vie passée. Les légendes locales abondent, disparitions inexpliquées, apparitions spectrales, reflets qui ne correspondent à rien de visible. Et si, comme pour les heures miroirs ou les messages de Dee, il existait des signes que nous ne savons plus lire, des indices subtils d'un monde que nous croyons séparé d'une autre. Au fil de cette exploration, nous allons écouter les récits, revenir sur les légendes anciennes, explorer des lieux où l'eau semble garder la mémoire de ce qui ne peut s'expliquer. Préparez-vous à plonger dans les eaux mystérieuses, à sentir le frisson d'une présence invisible et à découvrir que parfois la frontière entre le réel et le paranormal est plus mince qu'il n'y paraît. Alors l'eau, calme en apparence, semble parfois refléter un monde invisible. Un lieu où le réel et le paranormal se touchent. Sur la surface tranquille cachent des présences que l'on perce, qu'on ne peut pas toujours expliquer. Depuis des siècles, l'homme raconte des histoires d'entités d'eau, souvent féminines, qui apparaissent au bord des rivières ou à la surface des lacs, des étangs, à la nuit tombée. Alors en Europe, on pense aux lavandières de la nuit. Ce sont des fantômes qui lavent le linge des morts et entraînent dans l'eau ceux qui osent les observer. En Angleterre, on a Jenny Greenteeth, qui est une figure verdâtre et menaçante qui hante les étangs et tente de happer les imprudents. Plus au nord, en Écosse, des témoins racontent parfois avoir aperçu ce qu'on appelle les kelpies, des chevaux aquatiques malicieux et parfois mortels, qui vivent dans les rivières et attirent les promeneurs pour les noyer. Les sirènes, les ondines d'Allemagne, de Scandinavie et de Suisse sont également bien connues. Elles sont belles et fascinantes. Elles peuvent être à la fois protectrices et dangereuses pour ceux qui s'approchent des eaux. En Amérique latine, la tristement célèbre La Llorona, la femme qui pleure ses enfants noyés, hante les rivières et les lacs, apparaissant aux voyageurs pour les avertir ou les effrayer. Au Mexique, au Guatemala, elle reste une figure omniprésente dans des contes et des témoignages contemporains. Et plus au nord, les peuples autochtones d'Amérique du Nord évoquent les water babies, des esprits aquatiques pouvant être maléfiques ou protecteurs, selon le comportement des vivants, ainsi que des figures mystérieuses observées au bord des lacs et des rivières du Canada. Alors en Afrique, même les eaux sacrées abritent parfois ce qu'on appelle des mamiwata, esprits aquatiques réputés pour leur beauté et leur danger potentiel. Donc ils apparaissent dans les rivières, dans les lacs de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, offrant richesse ou malédiction à ceux qui les rencontrent. Le Cameroun et le Nigeria, les récits parlent de silhouettes féminines ou animales surgissant des marécages, préservant les secrets des ancêtres et punissant les imprudents. Même en Océanie, les récits aborigènes racontent des créatures des rivières et des billabongs, souvent liées aux esprits des ancêtres. Elles peuvent protéger ou punir. Là aussi, elles apparaissent comme des figures féminines ou hybrides, rappelant que les eaux sont des lieux sacrés et hantés. Et l'Asie n'est pas en reste parce que de nombreuses rivières et de nombreux lacs sont hantés par des esprits féminins ou vengeurs. Au Japon, les Kawanokami sont des esprits de rivière qui protègent les lieux et sont parfois hostiles aux pêcheurs imprudents. En Chine, les fantômes de femmes noyées, qui sont souvent vêtues de blanc, apparaissent aux voyageurs nocturnes. En Inde, certaines légendes de fantômes aquatiques rapportent des femmes noyées ou disparues dans des lacs sacrés, revenant hanter les lieux où elles ont péri. Alors, ces entités ont toutes en tout cas un point commun. Elles apparaissent souvent la nuit, au bord de l'eau, et leur présence est liée à la mort, à la punition ou à la protection. Elles sont à la fois fascinantes et terrifiantes et elles incarnent le mystère de l'eau, miroir du monde invisible. Mais ces entités ne sont pas toujours des mythes. Dans de nombreux lacs et rivières, des témoignages contemporains crédibles rapportent des phénomènes troublants. Silhouettes se mouvant dans la brume, voix féminines au bord de l'eau, perturbations inexpliquées des objets flottants et une impression constante d'être observée. Alors bien sûr, en Écosse et en Irlande, les lacs hantés comme le Loch Ness ou le Loch Crew sont associés à des apparitions, parfois liées aux kelpies, parfois à des figures féminines mystérieuses. En France, certains lacs et rivières ont été étudiés par des chercheurs du paranormal qui rapportent des sensations de présence, des reflets inexpliqués ou des sons étranges. Alors, ces lieux sont souvent ceux où des événements tragiques se sont produits, noyades, accidents, décès anciens. L'eau, comme un miroir du passé, conserve ses traces et nous confronte à l'invisible. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la hantise des eaux est un phénomène universel. L'eau agit comme un catalyseur de perception et des émotions humaines. Un miroir du visible et de l'invisible, où le tangible et le paranormal se côtoient. Alors de l'Europe à l'Amérique, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Océanie, les lacs et les rivières continuent de fasciner, de troubler et de hanter nos imaginaires. Alors, au-delà de ces rivières et de ces lacs, il y a un autre lieu qui contient de l'eau, qui est le théâtre de surnaturel, c'est les puits. Profondeurs sombres, silencieuses et confinées fascinent et inquiètent depuis des siècles. Comme dans les lacs ou les rivières, le puits est perçu comme un portail vers l'invisible, des passages vers un monde parallèle où les morts et les esprits résident. Donc en Europe, certains puits sont célèbres pour des apparitions qui y sont liées. Donc en Irlande, on raconte que certains puits sacrés, autrefois lieux de rites druidiques, abrite les esprits de ceux qui ont été sacrifiés ou qui s'y sont noyés. Dans la tradition française, les puits maudits de villages anciens sont souvent associés à des légendes de fantômes féminins ou d'anciens habitants disparus qui surgissent dans la nuit pour prévenir d'un danger ou réclamer justice. En Angleterre, beaucoup de récits anciens évoquent ce qu'on appelle les Welwaths, des esprits qui sont liés à des puits ou à des sources oubliées. Donc ces entités apparaissent sous des formes de silhouettes fantomatiques, de brumes mouvantes à la surface de l'eau. Il est dit que de regarder trop longtemps ces puits peut provoquer des hallucinations ou faire surgir l'un de ces fameux esprits qui viennent pour un coup avertir, un coup punir, on ne sait pas trop. Dans le folklore russe et slave, les puits sont parfois considérés comme la demeure d'Ondine et de Roussalki. Donc c'est des esprits féminins qui sont liés à l'eau, qui peuvent hanter les puits et attirer les imprudents dans leur profondeur. Alors ces apparitions ne se contentent pas de hanter, elles sont souvent en fait la réflexion de tragédies humaines, d'âmes piégées qui répètent le destin tragique aux vivants, qui refont un petit peu le même cycle. En Asie, les puits sont également porteurs de mystères. Dans certaines régions de Chine, des fantômes de puits, souvent liés à des suicides ou à des noyades accidentelles, hantent encore les lieux où le tragique s'est produit. En tout cas, toutes ces entités ont un lien en commun, la profondeur et l'isolement, là où les lacs et les rivières reflètent le monde extérieur. Les puits plongent dans la terre, vers un monde intérieur et invisible. Donc les esprits qui sont liés à ces puits sont souvent des messagers du passé, des témoins silencieux de tragédies humaines. Et ils nous rappellent que l'eau, c'est pas seulement un miroir du visible, mais c'est aussi un réceptacle de mémoire et de hantise capable de retenir les émotions et des présences. En tout cas, les profondeurs sombres de l'eau continuent de fasciner et de nous effrayer.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Après avoir exploré toutes ces légendes aquatiques à travers le monde, on va se tourner vers des sites où les hantises ont réellement été documentées par des enquêtes, des archives ou des témoignages collectés de manière un peu plus rigoureuse. Alors ici, on va parler pas seulement de folklore, mais aussi de phénomènes rapportés par des témoins crédibles et consignés dans des sources fiables. Alors en Écosse, donc le Loch Lomond, c'est l'un des lacs les plus étudiés pour son activité paranormale. Depuis le 19e siècle, plusieurs journaux locaux ont publié des témoignages de pêcheurs et de promeneurs rapportant des silhouettes mouvantes sur l'eau et des bruits étranges au bord du lac. Alors au XXe siècle, il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des associations spécialisées dans les phénomènes paranormaux et ils ont enregistré des variations de température complètement inexpliquées, des sons de pas sur l'eau et même des enregistrements audio de murmures indistincts. Alors ces documents, ils ont été conservés dans les archives du Scottish Paranormal Research Association. Ils témoignent en fait d'une constance des manifestations sur plusieurs générations. En Angleterre, le lac de Westmanswood, dans le Devon, qui a été étudié par des chercheurs du paranormal et des enquêteurs privés. Les rapports consignés dans les rapports d'enquête font des états de silhouettes fantomatiques, de brumes, de perturbations locales de la faune. Certaines observations ont été publiées dans la presse locale, dans des revues spécialisées sur le paranormal, et fournissent ainsi un corpus de témoignages vérifiables. Alors en Irlande, on a Lough Crew, qui est un célèbre site mégalithique. Il est également connu pour ses apparitions aquatiques. Donc il y a des enquêtes menées toujours par des groupes de recherche en paranormal, ont été rapportées dans plusieurs articles de journaux régionaux, donc mentionnent des silhouettes indistinctes, des frissons ressentis par les témoins, et plusieurs témoins indépendants qui ne se connaissaient pas entre eux ont confirmé ces expériences à travers des décennies, ce qui renforce sa crédibilité. Donc tout ce monde-là a confirmé ces expériences donc à travers des décennies, ce qui renforce la crédibilité de l'histoire. Alors en Amérique du Nord, il y a le lac Champlain, c'est un lac qui traverse le Vermont et le Québec. Il célèbre non seulement pour son monstre, qui est un petit peu un cousin de Nessie, mais aussi pour des phénomènes de hantises documentées. Des témoignages consignés par la presse locale, ainsi que des rapports d'associations de recherche, décrivent des apparitions qui flottent, des voix mystérieuses dans la nuit. Ces manifestations semblent liées à des lieux où des noyades ou à des accidents tragiques ont lieu, ce qui ajoute en fait une dimension historique et documentée aux observations. En Afrique de l'Ouest, certains lacs et puits sacrés font l'objet d'études ethnologiques et paranormales. Il y a des chercheurs qui ont publié des rapports sur des manifestations qui sont répétitives. Perturbations de l'eau, des frissons, des apparitions de silhouettes. Ces observations ont été corroborées par plusieurs témoins indépendants et signalées dans des rapports de terrain et des publications scientifiques sur le paranormal. Alors, tous ces lieux, les hantises aquatiques, ont été documentés par plusieurs types de sources. On a eu des journaux locaux, les archives historiques, des rapports d'enquête policières ou des rapports privés, des études d'associations paranormales et des témoignages consignés par des chercheurs crédibles. Alors, ces documents montrent en tout cas que certains lacs, certaines rivières et des puits ne sont pas seulement des lieux de légende, mais conservent quand même une activité perceptible et répétée, même de nos jours. Alors, au-delà des observations et des apparitions, hein, certains lieux ont été quand même le théâtre de tragédies bien réelles, hein, que ce soit des noyades inexplicables, des disparitions mystérieuses ou des crimes étranges, ont eu lieu au bord de l'eau, donnant naissance à des récits où l'histoire et le surnaturel se mêlent. En Écosse, le lac Lomond et ses alentours, c'est pas seulement connu pour des silhouettes, il y a eu plusieurs noyades inexpliquées et des disparitions de jeunes proveneurs dans les années 70 et 80 qui restent aujourd'hui classiques cold case. Les habitants rapportent que certaines victimes semblaient attirées par la surface du lac et s'étaient dirigées vers des zones isolées, des endroits justement qui étaient associés à ces fameuses kelpies, les esprits chevalins aquatiques. Alors si aucun lien direct n'a été prouvé, la coïncidence entre les lieux de disparition et les zones réputées, on va dire hantées, intrigue quand même les chercheurs. Alors le Loch Ness, qui est bien connu pour son monstre, c'est aussi le théâtre de noyades inexpliquées. Plusieurs victimes, souvent des touristes ou des locaux, ont été retrouvés morts sur la rive, alors sans que la dynamique exacte de leur disparition puisse être déterminée. Les témoins ont rapporté des phénomènes étranges avant les disparitions. Une brume soudaine, des voix indistinctes ou une impression d'être suivi. Certains sont consignés dans des archives de la police locale et des journaux du 19e et du 20e siècle, qui donnent un vrai cadre factuel à ces histoires. Et dans le Warwickshire, en Angleterre, c'est là le lieu qui entoure un peu la légende de la fameuse Jenny Greentooth. Il y a eu, effectivement, ça a été le lieu de plusieurs noyades d'enfants au 19e siècle. Les journaux locaux de l'époque relatent ces accidents tragiques, mais les descriptions des témoins de l'époque évoquaient en fait parfois des mouvements étranges dans l'eau et des apparitions, juste avant ces disparitions. Alors tous ces dossiers sont conservés dans les archives régionales et alimentent encore des récits et renforcent l'aura, on va dire, mystérieuse de ces lieux. Même en Amérique latine, la Llorona, qui était une créature légendaire, sa légende en fait se superpose parfois à des faits réels. Au Mexique, plusieurs enfants disparus près des rivières au cours du XXe siècle ont alimenté le mythe. Les familles et les témoins racontent avoir vu une femme pleureuse juste avant les disparitions. Des enquêtes locales ont documenté plusieurs cas où des noyades se sont produites dans des conditions inexpliquées. Alors bien qu'on puisse pas affirmer ce lien direct entre la figure légendaire, le folklore et les faits historiques, ça donne quand même à ces eaux un aspect sinistre et mémoriel. Donc ces histoires documentées dans la presse locale montrent comment un mythe peut se superposer à une tragédie réelle qui renforce la peur et la fascination pour ces rivières hantées. Alors ces disparitions et ces crimes, bien qu'expliqués par des causes naturelles ou criminelles dans certains cas, renforcent quand même l'idée que les eaux hantées ne sont pas seulement des légendes. Elles sont associées à des lieux où le danger et le mystère se conjuguent. Alors, quelles sont les explications, les hypothèses? Alors, face à ces lieux hantés, les phénomènes rapportés, silhouettes au bord de l'eau, voix mystérieuse, perturbations, peuvent s'expliquer de différentes façons. Alors, d'un point de vue scientifique, plusieurs facteurs peuvent expliquer certaines observations. L'eau a des propriétés acoustiques et optiques quand même particulières. La brume, le vent, le reflet des étoiles peuvent créer des illusions de mouvement, des silhouettes flottantes ou des voix déformées. Les courants et les remous peuvent produire aussi des sons étranges qui semblent provenir de l'air ou de l'eau elle-même. Certains psychologues évoquent également le rôle de la suggestion. Dans un lieu qui est réputé hanté, notre cerveau humain est quand même prédisposé à interpréter un bruit ou une ombre comme une présence invisible. Et bien la fatigue, l'obscurité et l'isolement accentuent quand même ces perceptions. Même si ces explications rationnelles ne suffisent pas toujours à rendre compte de la constance et de la répétition des phénomènes, dans de nombreux cas documentés, des témoins comme indépendants et crédibles observent des manifestations similaires, parfois à plusieurs décennies d'intervalle. Alors ces répétitions quand même soulèvent l'hypothèse que certains eaux peuvent conserver l'empreinte énergétique des drames passés, noyades, accidents, crimes, et que finalement cette énergie peut se manifester sous forme de silhouettes et de sensations. Les chercheurs en paranormal pourraient utiliser le terme d'impression résiduelle. Alors certaines traditions ésotériques vont plus loin et interprètent ces lieux comme des points de passage entre nos mondes et d'autres plans d'existence, les rivières, les lacs, les pluies, seraient donc des interfaces, des portails et où les présences du passé pourraient se manifester. D'autres hypothèses plus contemporaines combinent parapsychologie et environnement. Certains chercheurs suggèrent que des conditions particulières avec une forte humidité, une pression atmosphérique, un champ magnétique local ou des variations de température de l'eau pourraient favoriser des perceptions anormales ou des hallucinations collectives, notamment par rapport à la vapeur. Dans certains cas, des enregistrements électroniques ont détecté des anomalies dans les zones réputées hantées, ce qui renforce l'idée que ces lieux sont quand même différents de l'environnement ordinaire, même si la nature exacte de cette différence reste inconnue. Donc la science nous fournit des explications partielles, la psychologie éclaire notre perception, il reste quand même une part de mystère irréductible. Les eaux hantées, par leur apparente tranquillité et leur profondeur, semblent offrir un terrain où le réel et le surnaturel se confondent. Les disparitions inexpliquées, les silhouettes, les voix, depuis des siècles, suggèrent que certaines présences persistent, défiant le temps et la raison. En définitive, qu'on interprète ces phénomènes comme des illusions, des empreintes énergétiques ou de véritables apparitions, toutes ces eaux continuent d'exercer un pouvoir fascinant sur l'imaginaire humain, rappelant que les eaux ne sont jamais simplement que ce qu'elles paraissent. Elles restent des miroirs du visible et de l'invisible. Depuis les siècles, les histoires de la Llorona, des lavandières, des kelpies ou des puits hantés, en tout cas, ont servi à enseigner, à prévenir et à transmettre des valeurs. Elles rappellent la prudence. Ne pas s'aventurer seul près des rivières, respecter les zones isolées, se méfier des forces de la nature. Ces récits sont autant d'avertissements enveloppés dans le mystère qui permettent de préserver la vie et de respecter l'environnement. Ainsi, les eaux hantées sont bien plus que des lieux de peur. Elles sont des réceptacles de mémoire, de tragédie et d'émotions, des miroirs. Elles nous rappellent que le monde qui nous entoure porte les traces du passé et que parfois il suffit de tendre l'oreille et d'ouvrir son regard pour percevoir ce que le temps n'a pas effacé. Dans leurs calmes apparents, les eaux et leurs reflets continuent de parler aux vivants, nous confrontant à nos émotions, à nos peurs et aux mystères que nous n'avons pas encore compris. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration du mystère et de l'invisible. Aujourd'hui, nous avons voyagé à travers les heures miroirs, des instants simples et pourtant étrangement significatifs. Nous avons ensuite plongé dans la vie fascinante de John Dee, conseiller occulte d'Elisabeth Ier, qui nous a montré que l'histoire est faite de rencontres entre le rationnel et le mystique, entre la science et l'ésotérisme. Et enfin, nous avons exploré les eaux hantées, ces lacs, ces rivières, ces puits, où se mêlent légendes, disparitions réelles et présences persistantes. On a vu que l'eau peut être un miroir du passé et de l'invisible, qu'elle conserve la mémoire, les émotions et les tragédies anciennes. Alors à travers ces trois thèmes, il se dessine une trame. Le monde regorge de signes, de présences et de mystères, parfois subtils, parfois inquiétants, mais toujours fascinants. Alors que ce soit un reflet dans un miroir d'horloge, un manuscrit ancien, ou l'invisible qui se manifeste sur la berge d'un lac, tout cela nous invite à observer, à réfléchir, à chercher et peut-être à comprendre au mieux la relation entre l'homme et l'inconnu. Pour notre prochaine émission, nous plongerons dans l'énergie et la libération avec l'EFT, Emotional Freedom Technique. Nous tenterons de décoder les messages de l'invisible grâce à l'écriture automatique et nous partirons sur les traces de la terrible et de la sombre Annabelle, un objet hanté et énigmatique rencontré par Ed et Lorraine Warren. Et dans la chronique Coup d'œil dans le rétro, nous plongeons dans les ténèbres de l'Angleterre victorienne. Alors sorcellerie, démons, fantômes et créatures légendaires, nous allons décoder les symboles, l'ésotérisme et le paranormal qui se cachent derrière cette série emblématique britannique. Alors pour comprendre ce que ces histoires révèlent sur nos peurs et nos obsessions. Mais saurez-vous deviner de quelle série il s'agit ? Vous pouvez m'envoyer des propositions via ma page Facebook. Alors rendez-vous le mardi 10 février à 21h. Alors laissez bien sûr vos sens ouverts, vos esprits curieux et vos yeux attentifs. Le monde derrière son apparente banalité est rempli de secrets qui n'attendent que d'être découverts. Et sur Radio G 101.5 FM, que ce soit en DAB+ ou en streaming sur le site radio-g.fr, nous continuerons à lever le voile sur ces mystères, à explorer l'inexplicable et à poser ce regard autre sur l'univers qui nous entoure. Je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. Radio G.